Grand Angle, les reportages grand format du magazine Cui. Plaine à orienter, un reportage de Morgane Killikin et Jean-Christophe Attard. Un long ruban de 80 km par 10, délimité au nord par le Gol, au sud par la Solinzar et à l'ouest par les massifs de la Castanitz et du Rhinos. La plaine orientale est une terre de contraste qui présente, pour celui qui s'y rend en étranger, le visage d'une interminable ligne droite passant d'une commune à une autre sans interruption, dans un flot continu où, au milieu d'un fatras indéfinissable, se succèdent zones agricoles, industrielles et zones urbanisées. Autour de cette route, les populations se sont agrégées durant les dernières décennies. Corses de souche, rapatriés d'Algérie, ouvriers marocains composent la démographie d'un territoire qui cache son jeu. Il suffit d'emprunter l'une des nombreuses routes perpendiculaires à la RT10 pour retrouver, en seulement quelques kilomètres, le visage d'une Corse de l'intérieur, faite de petits villages, d'étendues sauvages et de terrains cultivés. Au gré des soubresauts de l'histoire, la plaine orientale a changé. Debout sur leur terre pour observer ces changements, il y avait les agriculteurs. Depuis leurs exploitations, ils ont tout vu, et parfois tout subi. La richesse, la déprise, la spéculation. L'évolution de leur métier s'est étroitement imbriquée à celle de leur territoire, pour le meilleur comme pour le pire. Au petit matin, nous rencontrons Patrice Santucci, berger de 50 ans, originaire de l'Aligane et installé à Tiadre depuis 12 ans. Chez lui, on est capradio ou péguradio depuis des générations. Aux côtés de son fils Saverio, qu'il espère prendre à sa suite, Patrice Santucci parle de son métier comme d'une évidence et de son troupeau de chèvres comme d'une seconde famille, sans pour autant en masquer les difficultés et parfois les errements.
On est famille d'Alessandre, qui va dire à Alessandre. Et on descend normalement, on est néolinque. Voilà, donc nous on descendait du néol. Voilà. Après mes parents, ils sont de Péré, il est dans les Andes, tous les deux. Enfin, mon père aussi, mon pauvre père, disons. Et après, on est des frères, hein. Pratiquement tous des chèvres. Et... Vous avez ceux qui partaient sur le continent, qui sont devenus gendarmes, qui sont devenus. Un peu maton, un peu dans l'armée et tout. Bon, nous, on est toujours restés, bien que c'était très, très dur. Hein. Enfin, nous, quand on dit nous, on parle de la famille Berger, pas que moi. Nous, on est toujours restés, donc on a toujours vécu à la dure. Voilà.
Bon, allez, tu es topillé, fais un petit peu, c'est aussi. Tu vas faire les outils, tu vas faire et puis et dopo tu vas mouiller. Dopo tu vas capre. Et déjà tu pilles. Tu zigines voilà. Pille un zigine voilà. Tu pilles. Guarde. Pille quelui di amoscia. Et cioè, tu vas chez lui, quella qua io amo.
Il y a plein de jeunes qui se lancent. Six mois après, il n'y a plus personne. Quoi.
Il faut s'installer. Il y a le lycée agricole. Ils prennent des gamins de l'agriculture. Ils montent en Ougabo, Panenteouyani, Audrey. Ils sortent de l'agriculture, il n'y a pas de terrain à vendre. Ça sert à quoi? De former un jeune, sauf s'il y a une exploitation des parents ou des grands-parents ou de la famille à reprendre. Je suis d'accord. Mais là, ils incitent les gens. Je pense comme dans tous les domaines, mais il n'y a pas cette branche. Il n'y en a pas. 2 ans alors qu'il n'y a pas de terrain à vendre. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et moi, bon, hein, moi j'ai un fils qui est en bas. Hein. Bon. Nous, à la rigueur, on a une fromagerie, on a des terrains, à la rigueur, s'il peut prendre la suite.
Nous quittons momentanément Patrice Santucci et reprenons la route en direction de la commune de San Giuliano, à la rencontre de Jean-Claude et de Catherine Crispi, producteurs de plants maraîchers bio et installés sur la plaine orientale depuis les années 80.
Là, on n'est pas encore vraiment dans la pleine saison, hein, parce qu'on les semis, on les fait au fur et à mesure, parce que là, c'est, nous, on arrive vraiment entre le 5 et le 6 avril, vraiment en grosse production pour commencer à servir et les pépinières et les gens qui viennent directement sur place, parce que les gens, ils commencent à faire les jardins à partir du 15 avril, qui sont en pleine, qui sont bien exposés, donc... Tant qu'on n'arrive pas à cette période, on n'a pas vraiment de... Et là, on prépare, en fait. On prépare pour avoir justement la production qui fait. Après, donc, il y a avril et mai, hein, mai, voire début, jusqu'à la mi-juin. Hein, jusqu'à la mi-juin, les gens, ils prennent. Hein. Parce qu'à la mi-juin, on a les montagnards, qui sont à 800 mètres d'altitude, et qui, eux, font les jardins vraiment très, très tard. Alors, donc, ça nous permet d'avoir un peu... sur 3 mois, quoi, en fait. On est installé depuis mai 86. On était toute une équipe on sortait tous du même moule, c'est-à-dire on avait une formation adulte là sur Saint-Julien. Il y avait une très belle formation sur un an et on y formait l'horticulture et le maraîchage, tout compris. Donc on faisait la fleur aussi bien le maraîchage. Et donc on s'est retrouvé toute une équipe de jeunes. Et pourquoi? On s'est dit pourquoi encore s'il n'y a pas de production de fleurs? Voilà la question qu'on s'est posée. Donc du coup, on a commencé un peu à prospecter et voir un peu les professionnels, hein, les fleuristes. Effectivement, il n'y avait que des grossistes qui venaient, qui achetaient sur les marchés, sur les mines, sur le continent. Ils ramenaient les camions et toutes les semaines, ils desservaient tous les professionnels. Donc du coup, ça nous a mis un peu... On s'est dit, ben, il y a peut-être quelque chose à faire, hein, puisque la fleur, il y avait quand même des rendements qui étaient assez élevés. On s'est dit, donc on s'est un peu donc, organisé comme c'est ça au départ. Alors on a monté vite une coopérative, bon, c'était à Croix-la-Bannière hein, pour la monter, parce que bon, on était quand même, il y avait plus de 20 apporteurs. Parce qu'on avait une équipe qui était ici dans le Haute-Corse et une équipe qui était dans le Corse-Sud. Donc on s'est tous retrouvés, on s'est tous regroupés et on a démarré la coopérative comme ça.
Les premières années florissantes passées, la coopérative horticole marque le pas. Certains s'en vont, d'autres décèdent, la concurrence étrangère se fait plus forte. Jean-Claude et Catherine Crisp se voient dans l'obligation de réorienter leur exploitation vers le maraîchage, puis la production de plantes immortelles. De manière générale, les années 1985-90 ont marqué un tournant en plaine orientale. Autour de chez Jean-Claude et Catherine, il y a plusieurs terrains qui témoignent de la déprise agricole qui a suivi. Des parcelles refermées, ensauvagées et couvertes de gros maquis dont on ne peut plus faire grand-chose.
Ici, ce qu'il y avait avant ici sur le terrain, c'était une vigne qui avait été arrachée. Donc il n'y avait plus de vigne, mais par contre il y avait du gros maquis. Donc entre-temps, le maquis avait pris la suite, donc du coup, je suis arrivé ici, donc le terrain était emmaquisé complètement, à l'abandon, parce que le propriétaire qui était son oncle...
En fait, c'était une sœur à mon père qui était propriétaire. Et nous, on a atterri là par rapport au terrain, parce que c'était la famille. On était dans le sud, on cherchait du terrain dans le sud et on ne trouvait pas. Donc ma cousine, quand j'étais enceinte de mon fils aîné, m'a dit, si tu veux, on vous vend un bout de terrain. Et c'est pour ça qu'on a atterri en Haute-Corse, par rapport au terrain familial, je dirais. Et on a acheté 2 hectares de terrain sur les 18 hectares.
Donc c'était du gros maquis.
Qui était rentré d'Algérie, qui était pied noir.
Voilà. Et lorsqu'on est arrivé, son oncle avait déjà 60 ans, donc il était à l'âge de la retraite à l'époque. Tout ce que vous voyez là autour, là, les clémentiniers, c'était planté en même temps, pratiquement, quand je suis arrivé, une grosse partie, parce que là aussi c'était de la vigne, ils avaient tout arraché et ils étaient en train de refaire la reconversion en clémentine. Et la partie basse, ils mettaient du kiwi. C'est fait dans les premières années qu'on est arrivé. Mais à l'époque, ils étaient en train de planter du clémentine parce que ça valait le coup de la planter. Mais quelques années après, c'était la chute libre. Dans les années 95, c'était la crise. La clémentine ne se vendait plus parce que les Espagnols arrivaient sur le marché beaucoup plus tôt. Donc ils perdaient. Ils n'étaient pas en IGP à l'époque. Donc ils n'étaient pas structurés. Donc tout le monde plantait, il y avait un tas de coopératives qui faisaient le traitement des clémentines, mais en fait tout s'est cassé la gueule d'un coup. Donc ils se sont repris en main, ils étaient tous endettés à un moment donné. Il y en a beaucoup qui ont arraché les clémentines. D'ailleurs, son cousin qui avait planté 3 hectares, il les avait arrachés à l'époque, carrément. Alors que maintenant, s'il les avait, il se serait rempli. Même sur 3 hectares, c'était des rendements à 40 000 euros minimum, 40 000 euros l'hectare.
Un constat de précarité ambiante qui contraste avec les souvenirs de Guillaume Philippe. Fils de vigneron et d'arboriculteur reconverti dans l'élevage bovin, l'homme de 42 ans a poursuivi dans la même voie. Lui se souvient de la crise bancaire des années 90, mais avant cela de production extraordinaire, d'une terre riche, du kiwi à 1 franc le fruit, qu'on devait garder avec des fusils pour qu'on ne les vole pas la nuit.
Moi, je suis directement issu de l'agriculture de la plaine en Corse, avec un papa vigneron, dans un premier temps, qui avait récupéré lui-même une exploitation issue de mon grand-père, qui s'était déjà installé juste après la guerre, il me semble, en plaine, à Justiniane, qui avait démaquisé, qui avait implanté du blé dans une opération de coopérative qui était devenue la Vadine ensuite. Et ensuite, c'était la vigne, place à la vigne, avant tout le monde, hein, je pense, hein, et à l'arboriculture aussi, avec des oncles qui ont fait des kiwis parmi les premières exploitations plantées en Corse. Je me souviens de belles images, hein, déjà quand j'étais petit, dans le début des années 80, avec des solutions sur place, des solutions semi-industrielles, de confection de poteaux, de main-d'œuvre venue d'Afrique qui était particulièrement opérationnelle, productive, et des hommes à qui on doit beaucoup finalement. C'est une reconversion de mon père qui aurait dû être à mi-carrière, qui a dû rénover son verger pour qu'il s'était impossible suite à la crise bancaire des années 90, dont beaucoup se souviennent. Et je crois qu'il n'a pas pris fin encore, même si on dit le contraire, et dont on voit encore les cicatrices dans le foncier de la plaine. Sur la plaine, je dirais que malheureusement, les terres les plus productives, comme beaucoup d'endroits à travers la planète, ce sont celles où il y a de l'eau, et c'est là qu'on construit, hein. Et c'est là qu'il y a du tourisme également. On pense au lit des rivières dans toute la plaine. Après, de là à dire que ça concurrence les terres agricoles, je crois que c'est plutôt le désordre foncier qui concurrence l'implantation agricole, ainsi que le déficit d'investissement. Et ensuite, une orientation des agriculteurs eux-mêmes qui ont du mal à se moderniser dans la tête, hein, peut-être, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de parcelles qui sont démaquisées à l'emporte-pièce, où il y a des excavations, des hangars qui poussent comme des champignons. Je ne crois pas que ce soit forcément profitable d'un point de vue durable. Et je crois qu'on a besoin de se remettre en question en permanence. Et en plus de ça, l'environnement nous y conduit, parce que quand on voit le degré de sécheresse sur 10 ans, et qu'en ce moment même, avec l'hiver qu'on passe, on comprend que ça va être pour longtemps, cette histoire de sécheresse et de réchauffement climatique, et bien je crois qu'on devrait quand même être un peu plus responsable. Et les politiques, je ne crois pas qu'ils soient assez réactifs au niveau régional pour orienter une politique qui aille dans le sens d'une amélioration rapide, quoi.
Pour expliquer le désordre foncier de la plaine, Patrice Santucci remonte plus loin, aux années 60, qui ont vu le retour des rapatriés d'Algérie. La période a laissé des traces et aujourd'hui encore, chez certains, l'amertume transperce le voile des années qui ont passé.
C'était un peu... Il n'y avait que des parasites et tout ça. Bon. Mais tous les terrains là, moi je vous fais visiter là où je suis, vous n'avez qu'à voir tous les murs. Tout ici, vous avez avec Tiagazetari, il y avait de la vigne. Comme tout là, par là. Tout était intégré, il y en a d'autres intégrés. Ibaese, Ifalan, c'était d'Aligeani, c'était... bon, de ce côté, c'était Aligeani, de l'autre côté, c'était des autres, voilà. Chacun, voilà, s'est dispersé. Les gens, ils faisaient comme ils pouvaient. Mais quand ils sont arrivés, les pieds noirs, on était colonisés, c'est à ce moment, ils disaient, j'en ai mis sur l'eau, mais j'en ai mis sur l'eau, quand on va te voir, j'ai, non, mais quand on va t'abéler, gorsi. Non, on va t'abéler. Alors, c'est sûr et certain qu'ils achetaient à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire à l'époque, qui n'étaient pas trop, et ils lui vendaient 3 hectares et s'il est bien à nos 50. Puis après, ils labouraient, ils faisaient venir. Ils sont arrivés ici en claquette, dans le monde. Et nous, quand on descendait vouloir acheter quelque chose, on ne voulait pas. Voilà. Mais allez-y. Et après, en compensation qu'il fallait rembourser les crédits, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, l'État? Effacement de la dette. Bon, si demain, on me donne un chéquier et vous achetez ce que vous voulez. Moi aussi, j'ai des idées. La du noue, la du noue, aujourd'hui, il n'y a qu'à peine à noue. Puis c'est mes cadeaux, t'es une course, c'est ma barrette, j'en ai tout au monde, aujourd'hui. J'achète 300 têtes, faccio une 40 marocani, faccio une 4 huile, noi, trattore et tout. Et puis après, les garder, les marocains, dans une pièce, là, comme des chiens. Ça, ils ont oublié, les pieds noirs. ils ont pas oublié, les Marocains, ils ont mis qu'à scordare. Ils ont mis. Né acqua, né lume, né nulla. Molti ivrini. Con una boîte de sardine. Et il fallait travailler parce qu'ils avaient du monde là-bas qui crevait de faim. Donc c'était dur même pour eux. Mais eux, c'était les gens.
La plaine a deux visages et celui du littoral s'est façonné beaucoup plus récemment. Faut-il alors s'étonner qu'ils prennent davantage les traits de l'ensemble urbain que du noyau villageois ? Soumis au mouvement pendulaire d'une population qui ne travaille pas là où elle habite, les quartiers résidentiels se vident le matin pour se remplir à nouveau le soir de gens qui souvent ne se connaissent pas. Patrice Santucci en fait l'amer constat.
Tous ces terrains agricoles qui a une petite bâtisse qu'on donne le prix fort pour 2 hectares, on balance 150 000 euros. Alors, on l'ingrosse à l'autre, il vendrait même sa propre mère. Et ces gens-là, ils se viennent et ils s'installent. Bon. Mais il y a des lotissements. Parce qu'après, ces gens-là au milieu, ils gênent. Alors, ils ne veulent pas de vaches. Ils ne veulent pas de chèvres. Ils ne veulent pas de cochons. Et tout y en est dans le gendarme. Vous savez, les peines comme ça, hein. C'est pas un village. Hein. Un village... le village, on sortait le soir, et la place de l'école ou la place de l'église, elle était commune. Et la communale, donc on jouait au boule, on sortait là. Je suis obligé de rentrer chez vous, sonner, ce soir, demain soir, vous allez dire, allez, t'en as ta croche, allez. Voilà. Tandis que dans un village, c'est pas la même. Donc ils auraient dû sortir Ibaesi. Ils auraient dû prendre toutes ces habitations, sortir Ibaesi, et laisser.
En plaine, le 21e siècle, ses technologies et ses mentalités se télescopent avec ce qu'il reste de notre passé. Une ferme jouxtant un supermarché, un cinéma de plein air coincé entre 2 lotissements tout neufs. Les agriculteurs et les éleveurs ont l'air d'avoir un pied dans chaque monde, et des acquis qui ne veulent pas laisser filer. Depuis les Romains jusqu'aux Pieds Noirs, la plaine orientale a toujours été un territoire attractif, au potentiel parfois ignoré, parfois mal maîtrisé, mais qui a toujours existé. Un territoire paradoxal dont les deux faces fonctionnent de plus en plus indépendamment l'une de l'autre. Une région aux identités multiples, dont on a parfois l'impression que les Corses eux-mêmes ont du mal à l'appréhender et à la définir. Pas l'endroit le plus sexy, et pourtant un territoire de pointe avec un train d'avance dans plusieurs domaines, qui jongle entre son passé et son futur, qui soigne ses racines pour se construire un avenir. Grand Angle, les reportages grand format du magazine Cui. Plaine à orienter, un reportage de Morgane Kilikin et Jean-Christophe Attard. Voix off, Léa et Ouzampier. Réalisation, Jean-Christophe Attard pour l'agence Totem.